Bonjour. Je voudrais vous présenter aujourd'hui un roman, ou pas, c'est selon, traduit de l'hébreu, donc un roman israélien, dont l'auteur est complètement inconnu en tant qu'écrivain et très célèbre en tant que chef d'orchestre. Il s'appelle Omer Meir Welber. Il est né à Be'er Sheva, donc en Israël, en 1981, a été directeur musical d'orchestre prestigieux en Israël, avant de devenir une véritable vedette internationale, puisqu'il a dirigé le Teatro Massimo de Palerme, la Philharmonie de la BBC. Depuis 2022, il est directeur musical du Volksoper de Vienne. Excusez du peu. Donc le roman en question s'intitule « Les absences de Chaim Birkner ». En fait, en hébreu, c'est tout simplement « Asipur shel Chaim ». En allemand, il s'agit des Vier Ohnmachten des Chaim Birkner, donc effectivement les évanouissements, les absences, et en italien Storia vera e non vera, donc une histoire vraie et pas vraie. En France, il a été publié aux éditions du Sous-Sol et traduit par Laurence Sendrovitch, grande traductrice de l'hébreu en français, traductrice de tout le théâtre de Hanoch Levin, avec Jacqueline Carnot, mais également de Tsuria Shalev, pour ne nommer qu'une romancière extrêmement célèbre, mais aussi de tant d'autres auteurs. Et donc, les absences de Chaim Birkner, une histoire vraie et pourtant inventée. Alors, Chaim Birkner, le héros de l'histoire, est sur le point d'avoir 108 ans. Il est né en 1930, donc nous sommes même légèrement en science-fiction, si je puis dire. Il est le plus vieil homme de l'État d'Israël et peut-être le dernier survivant de la Shoah. Et comme on propose de le célébrer en tant que véritable vedette, il va d'abord être complètement scandalisé de la cérémonie qu'on se prépare à lui faire. Et il décide de retourner vivre en Hongrie, à Budapest, dans l'appartement de ses parents, qu'il ne s'est jamais résolu à vendre. Et là, un siècle de souvenirs va défiler. Les images vont s'accumuler, ou plutôt se juxtaposer, pour composer le roman d'une existence à la fois sincère, à la fois inventée, ironique, tragique, fantasmée. Juif de Budapest, il se souvient de son enfance, de son père, des rouleaux de la Torah, dont je vous raconterai l'histoire, de son amour de jeunesse. Il raconte sa fuite de Budapest vers la Palestine dans des circonstances qu'on va être amené à évoquer. Sauvé donc, privé du statut de victime, et puis la vie, après, en Israël, au kibbutz, le mariage, la séparation, les petits boulots, les tricheries, les nombreuses rencontres, les conflits entre les survivants de l'Ancien Monde et les pionniers de l'État. En fait, le personnage qu'on pourrait qualifier d'homme sans qualité, j'emprunte la formule à Sarah Gastel, un homme sans qualité, un mentor impénitent, qui va passer des réminiscences de son enfance à Budapest, au kibbutz, en passant donc par cette fuite, en tout cas cette possibilité de partir pour la Palestine en pleine guerre. Il raconte le roman de sa vie avec humour. Et il est même écrit sur la troisième de couverture « Il n'existe pour l'heure pas de musée assez grand pour contenir toutes les histoires liées à ma famille ». Donc on voit un petit peu comment ce roman aurait pu dépasser largement les 240 et quelques pages, 250 pages, qu'il compte à présent. On a des dialogues extrêmement virtuoses, et je me permets cet adjectif, vu que Omer Meir Welber est donc musicien et chef d'orchestre, qui plus est. Donc des dialogues virtuoses, piquetés d'humour yiddish, et on a aussi parfois l'irruption de l'onirisme, hein, le rêve qui s'introduit. Une fable historique, en quelque sorte, qui retranscrit le destin des déracinés, qui continuent à vivre, mais qui continuent cette vie en revivant en même temps leur mémoire. Et je voudrais donc, en guise d'introduction, vous lire ce premier chapitre. En fait, il y a une introduction, oui, et un chapitre 1. Vous allez pouvoir goûter, enfin, moi j'ai énormément apprécié, cette façon d'entrelacer les voix. Exactement de la même façon que fait l'orchestre quand il entrelace les instruments les uns aux autres, que les instruments se répondent, mais ce n'est pas toujours les violons qui répondent au violon. Ça peut être la clarinette, ou ça peut être la contrebasse, etc., etc. Et Welber s'est amusé à opérer cette même alchimie avec les personnages et avec les réponses et les questions qu'ils peuvent se poser les uns aux autres, alors que parfois, comme c'est le cas ici, les personnages n'interfèrent pas les uns avec les autres. On n'est pas à la même époque et on n'est pas au même endroit. J'avais 11 ans, c'était ce samedi matin. Je suis allée avec mon père à la synagogue du quartier. Sur le chemin, on nous a insultés. Alors il m'a attrapée par le bras, on a commencé à courir. J'ai glissé, je me suis fait mal, on a quand même continué. Une fois arrivé sur place, on n'a trouvé personne. Mon père m'a fixé du regard intensément et il a dit « Une synagogue vide, c'est comme un théâtre sans acteur. » Et si on s'était trompé de jour, ai-je suggéré. Il a ri. J'ai toujours pensé que le rire et la peur allaient de pair, parce que chez lui, l'un comme l'autre était très développé. Parfois, je me demande ce qui a précédé, du rire ou de la peur. Qui s'attendrait à ce qu'un homme doté d'un tel sens de l'humour craigne quelque chose qu'il pourrait désamorcer par une bonne blague? Et inversement, comment un homme peureux aurait-il le temps de cultiver son sens de l'humour? À l'étage, juste en dessous de chez nous, il y avait un bureau, peut-être un cabinet d'avocat. Notre immeuble se trouvait au fond d'une cour, ou plutôt d'un jardin, et je ne connaissais pas le nom de tous les gens qui habitaient dans l'autre immeuble, celui en façade. Je me souviens d'une dame qui nourrissait les chats de gouttière. Un jour, que j'allais à l'école et traversais son bâtiment pour sortir, je l'ai vue qui s'apprêtait à descendre avec du lait et du fromage. Elle a attendu que je passe. Je me suis dit qu'elle venait certainement d'une famille de la haute société, parce qu'une telle éducation, ça ne se voyait pas tous les jours. « Ne t'arrête pas !» m'exhorta mon père. « Pourquoi ? Pour éviter les embrouilles, fais comme si on n'était pas là, » me chuchota-t-il. « Comment ? Évite de regarder, c'est tout. » Franchement, je n'ai pas compris. D'ailleurs, éviter de regarder quelque chose ne signifie pas que tu n'existes pas. Quoi, on n'a pas entendu des tas d'histoires sur des aveugles qui se faisaient dépouiller ou renverser par des voitures ? On rentre à la maison ? On ne devrait pas plutôt garder la synagogue jusqu'à l'arrivée du bedeau ? Quand tu seras grand, arrange-toi pour n'avoir jamais rien à garder, m'assena-t-il. L'après-midi, ne restait que quelques traces de fromage dans les récipients. Les beaux jours d'hiver, les chats s'allongeaient de tout leur long sur le trottoir, écrasant leurs petites bedaines dans les taches de soleil que laissaient passer les immeubles. Le matin, on pouvait en trouver au moins 10 ainsi éclairés, mais au fil de la journée, ces îlots de chaleur se raréfiaient. En rentrant ce jour-là de la synagogue, on n'en a vu que 3 petits qui se prélassaient dans la rue. Combien de chances un être humain peut-il espérer obtenir ? S'interrogea mon père en les désignant du doigt. Quand je serai grande, je veux être danseuse, déclara Léon. Elle sautait d'une tache de soleil à l'autre et se fendit soudain d'une arabesque. J'avais peu d'amis parce que je n'avais pas envie de me lier avec trop d'enfants, mais elle était spéciale. Elle s'appelait Léa. Moi, je l'appelais Léon, parce qu'elle était toujours en pantalon. Viens, faut que je te montre quelque chose, me lança-t-elle du bout de la rue. J'étais tellement concentrée sur ses taches de rousseur que je ne m'étais pas aperçue qu'elle ne se trouvait plus en face de moi. On est amis et on veut se marier, dis-je à ma mère. Vous êtes un peu jeune pour ça, mais en attendant, vous pouvez toujours vous tenir par la main, me répondit-elle. Je fus saisie d'une telle émotion que je restai figée sur place. Tout le sang de mon corps, tout l'air de mes poumons, toutes les pensées que j'avais, tout se focalisa sur la main claire et douce de Léon. Un instant, je ne sentis plus rien, sauf ma paume contre la sienne. J'avais complètement disparu. Je décidai de parler de ce phénomène à mon père. On se donne la main et on n'est plus là. Si on entre dans le magasin, tu crois qu'on sera jeté dehors ? Hésita Léon. Bon, je pense pas que ce soit la peine de tenter l'expérience. Quel trouillard tu fais ! Il est gentil, monsieur Adler, il ne nous chassera pas. Quand on lui demanda un paquet de chewing-gum, ses yeux s'agitèrent dans tous les sens. « Tenez, mais sortez vite, d'accord ?» À croire que le trouillard, c'était pas moi, mais lui. Tellement affolé qu'il oublia de nous faire payer. Il voulait juste qu'on décampe, tout de suite. « Monsieur, vos sous !» lâcha Léon avec mépris.
« D'accord, mais ne dites à personne que vous avez acheté ça chez moi, » chuchota-t-il.
« Tu vois, non seulement on est entré dans le magasin, mais il a même voulu nous le donner gratuitement, le paquet. »
Elle mâchouillait son chewing-gum du côté gauche de la bouche, et j'ai refait la même erreur qu'avant. Elle parle, mais moi, je me concentre sur ses taches de rousseur. Et je rêve.
Oh, je sais pas, peut-être bafouillais-je.
On est resté presque 2 heures devant la synagogue. Mon père a dit qu'on attendrait que quelqu'un vienne nous remplacer. Mais personne n'est venu. Après avoir longuement hésité, on a donc décidé d'agir. On est entré, on s'est approché de l'Arche Sainte. Chacun a attrapé un rouleau de la Torah et on a repris le chemin de la maison. Un ciel pourpre s'était abattu sur la rue, tel un épais tapis sur lequel nous avancions. Sa couleur allait si parfaitement avec le manteau de velours de nos rouleaux que ceux-ci se mêlaient à la palette automnale de la ville. J'ai soudain eu l'impression qu'on respirait sur un autre rythme que notre entourage. On marchait à découvert, tout en se cachant dans l'air qui s'épaississait de plus en plus. Quand on est arrivé devant notre immeuble, les 3 chats étaient recroquevillés dans un coin. « Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous ouvrir la porte ?» demandai-je au voisin du dessus.
« Oui. » Incapable de se retenir, l'homme ajouta.
« Grégor, qu'est-ce que vous faites avec ces rouleaux ? Qu'est-ce qu'on fait ? On revient de la synagogue où il n'y avait personne. C'était ouvert, mais n'importe qui aurait pu entrer et tout saccager. » répondit mon père, dont les commissures de la bouche s'affaissèrent.
« Le rabbin n'est pas là ?» s'étonna le voisin en relevant le menton.
Pas plus de rabbins que de fidèles. On a attendu 2 heures avant de décider de les rapporter. On va quand même pas laisser des rouleaux dans une synagogue ouverte à tous les vents.
Et si vous en déposez un chez moi, proposa-t-il un peu hésitant.
Je pense qu'on va les garder chez nous. De la tête, mon père me signifia de filer par l'escalier. Je ne l'avais jamais vu aussi énergique auparavant. Quelle mouche l'avait piqué? Ne m'avait-il pas dit d'éviter d'avoir quoi que ce soit à garder? Pourquoi nous compliquer maintenant la vie avec 2 rouleaux de la Torah entreposés chez nous? D'ailleurs, où pensait-il les mettre? 2 rouleaux, l'un immense, presque de ma taille, et l'autre petit, mais furieux. Ouais, celui-là avait quelque chose dans sa couleur qui te disait clairement « ne m'ouvre pas ». Quand on est entré, ma mère, qui était dans la cuisine, nous a captés du coin de l'œil. Elle n'est pas un peu exagéré en dansant pour fêter la Torah à la synagogue. Ah, si je te disais ce qui s'est passé, tu le croirais pas, lui lança mon père, qui déposa son rouleau dans la baignoire. Il entreprit de lui raconter les événements de ces 2 dernières heures. Et pendant ce temps, je suis allée mettre mon rouleau à côté du sien. Voilà donc que dans notre petite salle de bain blanche, carrément dans la baignoire, se dressaient bien droit 2 rouleaux sacrés. À un certain moment, on a vu des carpes dans cette baignoire. Elles avaient barboté tranquillement pendant 2 jours, puis soudain, plus rien. Oui, pendant 2 jours, elles étaient devenues le centre de nos vies. On jouait avec, on leur donnait des morceaux de pain à manger. Et tout d'un coup, elles avaient disparu.
Le gefilte fish, c'est de la carpe farcie. Or, les êtres humains ont besoin de manger, m'avait expliqué ma mère quand je lui avais demandé ce qu'elles étaient devenues.
C'est très bon, je mastiquais la bouche ouverte.
Oui, on dit toujours que ce qu'on obtient gratuitement est meilleur que ce qu'on doit payer.
Léon se fourra encore un chewing-gum dans la bouche, tandis que M. Adler continuait à nous surveiller du pas de la porte, en espérant qu'on s'éloignerait au plus vite. On s'est assis à côté, côte à côte, au coin de la rue, sur le trottoir. Léon, les jambes bien tendues vers la chaussée, comme d'habitude, et moi, comme d'habitude, a essayé en vain de tendre les miennes sans y arriver. On aimait rester là à observer les passants. On avait même un jeu. On imaginait tout un tas de choses sur eux.
« Eh, viens à table !» La voix de ma mère me tira hors de la salle de bain. Je me suis mis à râler. « Quoi, je suis censée manger avec ça ?»«
Tu n'as qu'à les ignorer, ou alors fais comme si c'était des invités. » Mes parents avaient installé les rouleaux à table avec nous.
« Grégor, je ne pense pas que ce qui t'est passé par la tête. Je ne comprends pas ce qui t'est passé par la tête quand tu as décidé d'apporter ces 2 trucs à la maison. Je comprends vraiment pas, maugré ma mère. Tiens, c'est pour toi. »
Elle m'a tendu une assiette de soupe, puis a repris la bouche pleine. « Mon cousin, vous avez l'intention de les rapporter à la synagogue ?»«
Pas sûr que je les rapporte, » a-t-il répondu, en effleurant le velours pourpre qui les recouvrait.
« Quoi, on est censé vivre avec eux maintenant ?
Je trouve qu'on est suffisamment à l'étroit comme ça, non ?»
Elle m'a regardé pour que je confirme. « Arrête de dire n'importe quoi, » marmonnait mon père en mordant dans son pain. « Tu prends toujours un malin plaisir à nous bousculer. »«
La soupe est chaude, » ai-je dit. Et à ce moment-là, on a entendu des coups frappés à la porte. Voilà, tout ce long passage, en fait, pour que vous entendiez déjà un petit peu la manière, encore une fois, tout à fait virtuose et tout à fait surprenante, mais on s'y habitue très vite et surtout on comprend parfaitement quelles associations poussent le narrateur à passer d'une scène à l'autre. C'est-à-dire qu'on a deux scènes qui ne se passent absolument pas au même moment, puisque l'une a lieu un vendredi soir, le père et le fils vont à la synagogue, synagogue vide, ville sous haute tension antisémite. On doit se rapprocher de... On doit être au début de l'année 1944, si je ne me trompe. Donc en Hongrie, Budapest, hein, avec les absences de Chaim Birkner, de Omer Meir Welber, ce roman israélien paru tout récemment. Et, aux surprises, la synagogue est non seulement vide de fidèles et de ministres officiants, et de rabbin, mais également porte grande ouverte. Le père ne pense qu'à une chose, c'est au moins essayer de préserver, de protéger quelques sifrei Torah, quelques-uns des rouleaux de la Torah. Il ne peut pas les emporter tous, mais il en prend deux. Il en prend un très grand et il en donne un petit à son fils. Et son père lui intime plusieurs injonctions, entre autres celle de devenir invisible. Et cet ordre, ce commandement, le ramène à une rencontre qu'il fait quotidiennement avec sa petite copine. Enfin, dans le récit, il est encore tout jeune, je crois qu'on n'est même pas en 44, il doit avoir 11-12 ans, donc on est plutôt en 41 ou 42, puisque le héros de l'histoire, Chaim, est né en 1930. Et la petite copine qu'il appelle, au stupeur, Léon. Donc on ne comprend pas pourquoi c'est au féminin, mais on comprend immédiatement qu'il s'agit d'une petite Léa, et comme cette petite Léa est toujours en pantalon, eh bien le narrateur a décidé de l'appeler Léon, très simplement. Et tous les deux font, non pas les 400 coups, mais ils vont acheter des sucreries, ils se racontent des histoires, enfin tout le début du roman est parsemé de petites anecdotes extrêmement pittoresques et pétulantes. Et comme il sent qu'il est très attaché à cette petite fille, il le dit à sa mère, et bien sûr, première chose, je veux me marier avec elle. Et sa mère lui dit, bon, peut-être encore un peu prématuré, mais pouvez vous prendre par la main. Et lorsque la première fois qu'il prend la main de Léon Léa, eh bien, il a l'impression, justement, de disparaître. Hein, cette impression absolument délicieuse, quand on est amoureux pour la première fois de sa vie, de se fondre avec l'être aimé à partir du moment où on entre en contact tactile, si je puis dire, avec lui. Et donc, ces deux scènes, évidemment, sont non seulement corrélées dans l'esprit du narrateur, mais également, ils passent sans cesse de l'une à l'autre. Et l'on a cet événement qui pourrait être presque tragique, de cette synagogue ouverte que l'on sent être bientôt le théâtre de pillage, voire de destruction, qui est relié par la grâce de l'association d'idées, l'association de mots, qui est relié à ces rencontres absolument délicieuses entre le petit Chaim et la petite Léa Léon, ou Léon Léa, comme on voudra, comme on choisira. Il y a un autre passage que je souhaiterais vous lire. C'est le jour anniversaire de la maman qui va faire appel également à la rencontre des parents. Quand j'étais petit, nous avions une sorte de rituel, mon père et moi. Tous les soirs, avant que j'aille me coucher, il m'appelait, ouvrait la main, la posait sur mon visage. Moi, j'entrais dedans et disparaissais. Encore une fois, cette disparition, hein, due à un contact, due au toucher, hein, d'un être cher, un être auquel on fait entièrement confiance aussi. Le bout de ses doigts contre mon front était très rugueux. « Quand tu seras grand, tu feras la même chose avec ton enfant », me chuchotait-il en souriant. « Quand on sera grand, on se mariera », lançais-je avec détermination, pour aussitôt essayer de lire dans les pensées de Léon. « Peut-être, on verra », elle me répondit sur le ton de quelqu'un qui sait à quel point elle est belle. J'allais cueillir une de ces fleurs jaunes qui poussaient dans notre rue. J'en arrachais les pétales un à un et les collais sur ses ongles. En quelques secondes, ses doigts furent ornés de dizaines de languettes jaunes, une corolle qui souligna ses yeux bleus et forma un paysage dans lequel elle fut engloutie. Donc on voit quand même que ce motif de la disparition n'est pas uniquement le fait de disparaître pour ne pas être vu de l'ennemi, en l'occurrence des Hongrois antisémites, mais aussi la disparition dans la fusion, dans l'osmose amoureuse. « Viens, j'ai l'impression d'avoir trouvé quelque chose qui conviendra à merveille », me dit mon père avec malice. « Quoi ?» demandai-je très curieux. « Tu vas pas tarder à le savoir, chaque réponse en son temps. » On cherchait un cadeau pour ma mère. Tous les ans, il se démenait pour lui offrir le cadeau idéal. Ce n'était pas en l'honneur de son anniversaire, mais de la fête de Kippour, le jour du grand pardon. En effet, alors que tout le peuple juif se drapait de noir pour l'occasion, là une petite inexactitude, mon père, lui, exultait en dedans. Et s'il aimait cette fête plus que toutes les autres, c'était sans doute parce qu'il avait rencontré l'amour de sa vie ce jour-là. Kippour était donc leur fête, à tous les deux, ce qui faisait dire en riant à ma mère « Remercions Dieu pour la destruction du temple. »« Tu vois cette porte ?» me demanda mon père. « Non, vraiment je ne la voyais pas. Je jurais qu'au moment où je lui répondis, il n'y avait pas de porte à l'endroit qu'il m'indiquait. » Il attendit que le soleil émerge de derrière l'immeuble. « Et maintenant ?»« Maintenant oui, je comprends. Je comprends pas. Comment tout à coup ?» etc., etc. Mes parents s'étaient rencontrés à la synagogue, ce que mon père, d'esprit taquin, commentait parfois par « À la synagogue, elle continuait à être la plus jolie des jeunes filles. » Leur histoire, je la tiens de ce qu'ils m'ont raconté en chœur. Avec son cousin Misha, il allait rendre visite à de la famille éloignée. Les deux garçons avaient décidé de faire halte pour la nuit dans la bourgade de ma mère, puis de reprendre la route le surlendemain. Ils s'étaient donc mis en quête d'un endroit où dormir, avaient atterri dans la yeshiva du coin, où une pièce avec quelques lits restait toujours réservée aux jeunes garçons ayant besoin d'un toit de dépannage. Comme c'était la veille de Kippour, ils avaient pris leur dernier repas avant le jeûne et aussitôt étaient allés se doucher pour se préparer. Mon père racontait qu'il faisait gris, même froid ce jour-là, mais qu'ils étaient tout de même allés faire une courte promenade avant d'entrer dans la synagogue pour la prière du Kol Nidre. Si bien qu'arrivé là, le responsable des places assises leur annonça que la salle était pleine et leur conseilla d'aller voir un peu plus loin, juste à côté de la galerie des femmes. C'était donc à la rabbanite, laquelle accueillait, bénissait, embrassait les femmes et les enfants en train d'arriver, que mon père et Misha demandèrent si elle avait de la place. Cette femme, peut-être douée de double vue, indiqua à ces deux hommes, jeunes hommes charmants et très pieux, des sièges tout près des deux plus jeunes filles présentes, ma mère et sa voisine. À partir de là, rien de plus clair, mes futurs parents se regardèrent et se sourirent. Le lendemain, ils se retrouvèrent pour l'office du matin, de l'après-midi, et bien sûr, pour la Neïla qui clôture cette journée. Dès que les trois premières étoiles apparurent dans le ciel et que le chauffard retentit, mon père tendit la main à ma mère et se présenta. Elle sourit, s'enquit de savoir s'ils avaient où dîner. Eux, bien sûr, répondirent que non, et elle les invita chez ses parents. Les rumeurs sur la grand-mère, la mère de mon père, qui n'était pas juive, arrivèrent rapidement jusqu'aux parents de la promise, les mettant face à un terrible dilemme. Ils appréciaient beaucoup Yosef, qui était déjà fiancé à leur Rachel, mais se montrèrent très préoccupés par la réaction de leur entourage, ou, pour reprendre la phrase que mon père formula à ma mère, après avoir perdu une fille à Hollywood, ils ne voulaient pas perdre la seconde. Mes parents comprirent qu'ils n'avaient pas le choix et s'enfuirent. Ils rassemblèrent leurs affaires, montèrent dans un train et commencèrent une nouvelle vie sous de nouveaux noms, Grégor et Sophia. Donc voilà un petit peu comment cette rencontre se fait. Il y a également tout un contexte historique qui bien sûr part de cette Hongrie des années de guerre, cette Hongrie dont vont être déportés en masse à partir de mai-juin 44 quasiment toute la communauté juive. Mais auparavant, il y aura eu un personnage qui a une importance grande, très grande dans le comité d'aide et de secours de Budapest. Le personnage s'appelle Rudolf Kestner. Rudolf Kestner a donc prêter main forte pour pouvoir sauver des Juifs de Hongrie. Sauf que ce sauvetage s'est effectué par des négociations avec les nazis.
Grâce à ses négociations financières, moyennant finances, il a pu organiser le sauvetage de plus de 1600 juifs. Bien évidemment, parmi ces juifs sauvés, il y avait beaucoup de gens qu'il connaissait. Il immigre en Israël en 1952, rejoint le Parti travailliste, et c'est à ce moment-là qu'il est accusé d'avoir collaboré avec les nazis. Accusé et mis en procès. Un procès qui va diviser la société israélienne et va même causer la chute du gouvernement qui avait pris sa défense. Il va être assassiné en 1957 à Tel Aviv, puis réhabilité officiellement en 1958. Et le héros de l'histoire, Chaim, donc petit garçon, va être sauvé. Alors ce n'est pas dit expressément clairement dans le roman, sauf que à un moment donné, le nom de Kastner surgit entre les lignes. Mais il est évident que ses parents ont payé un prix très élevé pour que l'enfant puisse être exfiltré et puisse partir en Palestine en pleine guerre. Ses parents, eux, n'auront pas la chance de partir en Palestine, mais en revanche, ils auront celle d'avoir pu rester en vie, puisque le père sera convié au procès Kastner en 52 à témoigner, justement, et en tant que témoin de la défense. Donc on a tout ce passage qui nous ferait plutôt penser à un roman policier, je dois dire. Et c'est vrai qu'il y a un petit peu de tout dans ce roman. Hein. Il y a de très très belles pages d'amour fou. Et puis on a donc aussi ce passage qui sent bon le roman policier. Plutôt le roman de détective ou le roman d'espionnage. Voilà. Lorsque cette rencontre au fond d'une cave, justement le jour où il est en quête d'un cadeau d'anniversaire pour sa femme, le père emmène le petit garçon faire connaissance avec justement ceux qui vont le sauver. Et puis, on a donc ces réflexions sur l'État d'Israël. État d'Israël dans lequel le héros va vivre tout de même 80 ans de sa vie avant de décider de retourner en Hongrie. Et il retourne en Hongrie en faisant des déclarations assez appuyées du type « Vous avez déjà détruit une moitié du pays, la nôtre, tu ne crois pas qu'il est grand temps que vous détruisiez aussi la vôtre ?» Ça, c'est une déclaration de son gendre qui est ultra-religieux et qui fait justement des discours qu'il ne peut pas supporter. Et à ce moment-là, il dit « Je ne reste pas, vous avez, » dit-il en s'adressant aux religieux, « vous avez tout détruit ici. » Et je terminerai donc avec une courte lecture des dernières pages ou avant-dernières pages de ce roman, « Les absences de Chaim Birkner » de Omer Meir Velber, avec un W, aux éditions du Sous-sol, traduit de l'hébreu par Laurent Sandrovitch, le romancier, l'écrivain, étant en même temps un chef d'orchestre, ce qui, comme je l'ai dit, se sent quasiment à chaque ligne. J'ai soudain compris que je rentrais en Europe, plus de 90 ans après avoir quitté le vieux continent, et que j'allais me retrouver dans l'appartement de ma mère, dans ce trou moisi qui avait été le nôtre. Au moins, tous les salopards du quartier ne sont plus en vie. Je suis certainement le dernier qui reste. Demain, j'aurai 108 ans, et je serai de retour à l'endroit où je suis né, l'endroit où apparemment je mourrai, sauf si on me prévoit une centaine d'années en plus. Que sommes-nous devenus ici? Dans la rue, on croise des individus à la triste mine. Je n'ai jamais voulu être un héros, mais voilà que cette vie merdique insiste encore et encore pour que j'en sois un. Je refuse. Que tous les illuminés se regroupent ici, c'est-à-dire en Israël, ils sont tous ultra-orthodoxes, extrémistes, eh bien, qu'ils restent enfermés dans leurs pensées, à vivre selon les lois du judaïsme. Petite surface, grand peuple, comme ils disent. Avant, c'était grande surface, petit peuple. Et moi, à cause de tout ce bordel, je dois, à mon âge, prendre mes clics et mes claques et rentrer en Europe. Quelle humiliation! J'ai jamais voulu rentrer. À quoi bon m'être bagarré avec tout le monde? Demain, je m'envole, je m'installerai chez moi et j'y resterai, c'est tout. Je veux qu'on me laisse tranquille. Je ne peux plus ni écouter, ni penser, ni me souvenir. Stop. Et là ne s'achève pas les absences de Chaim Birkner, que je vous conseille, un livre tendre, réjouissant, drôle, plein d'humour, d'une certaine cruauté aussi, et beaucoup, beaucoup de franchise.